Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on veut aussi laisser la place au Seigneur pour que le Seigneur dirige toutes choses. Le titre que j'ai mis à ce message, c'est celui-ci, ce que Dieu attend de ses serviteurs. Et pour introduire, j'aimerais que nous lisions dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1er, et au verset 9. Donc dans l'Épître aux Colossiens, nous savons que c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul qui s'adresse aux Colossiens. Et dans les premiers versets de cet Épître aux Colossiens, de ce premier chapitre, il fait l'éloge des Colossiens. Quand il dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. » C'est au verset 3 et 4. Mais le passage que je voudrais lire pour introduire, c'est des versets qui se trouvent un peu plus loin, c'est le verset 9. Verset 9 à 14. Voilà ce qui nous est dit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça reprend un petit peu la prophétie qui vient d'être donnée aussi là. Et tout cela pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu et fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez transformés, que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pour aller un petit peu plus loin dans la pensée que je vais développer, je voudrais que nous lisions au dernier chapitre de cet épître aux Colossiens, chapitre 4, et c'est toujours Paul qui s'adresse aux Colossiens, et il a une parole, c'est parti, il a une parole concernant Archip. Je ne sais pas si vous connaissez Archip. Et voilà ce que dit Paul aux chrétiens de Colosse. Il leur dit, dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Et dans la version Parole de vie, il est dit, dites à Archip, attention, tu es chargé d'un travail au service du Seigneur, fais-le correctement. Tu es chargé d'un travail au service du Seigneur, fais-le correctement. Et c'est vrai que c'est quelque chose, le travail que nous confie le Seigneur, nous devons le faire correctement, de tout notre cœur. Et Paul connaissait bien sûrement Archip. Archip était un serviteur de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il y a aussi une pensée qui m'est venue à l'idée quand je réfléchissais à tout ça, c'est que Paul, quand il se présente dans les différentes épîtres, il emploie souvent une expression qui revient régulièrement dans la plupart de ses épîtres, c'est Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et dans certaines épîtres, Il ne se dit pas apôtre, mais il se dit serviteur. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et j'ai regardé, pendant 6 fois, il dit Paul, apôtre ou serviteur. Alors c'est 3 fois apôtre, 3 fois serviteur. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul, il ne mettait pas son qualificatif d'apôtre en avant, il se considérait comme étant serviteur de Jésus-Christ. Et quand il donne ce conseil à Archip, eh bien, il lui donne ce conseil, pourquoi ? Parce que Archip, il avait reçu un ministère, mais il était aussi serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Il avait été compagnon de combat avec Paul pour l'annonce de la parole de Dieu. Aussi, si Paul lui transmet cette recommandation, c'est parce que peut-être il connaissait Archip. Il connaissait Archip. Et si Paul lui dit, prends garde ou fais bien ton travail. Paul, comme je dis, devait bien connaître Archip. Il savait que peut-être, de temps en temps, il pouvait être sujet à faiblesse ou découragement. À qui ça n'arrive pas d'être sujet à faiblesse et découragement, hein ? Et il savait que peut-être que de temps en temps, les influences contraires pouvaient altérer sa marche avec Dieu. C'est des choses qui arrivent, ça aussi. Les influences contraires peuvent altérer notre marche avec Dieu. Et donc, il avait besoin d'être exhorté, d'être soutenu, d'être encouragé, et non pas d'être critiqué ou repris sévèrement, mais encouragé. C'est pour cela qu'il dit, au Seigneur, il dit à Archip de, il encourage Archip à bien remplir son ministère. Et cette recommandation que Paul adresse à Archip, eh bien, je crois que ce matin, elle peut s'adresser aussi à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Prends garde au service que le Seigneur attend de chacun de toi, attend de moi. Hein? Prends garde au travail que je dois accomplir pour le Seigneur. Prends garde au témoignage que l'on doit donner et rendre autour de nous. Et c'est vrai qu'en tant que racheté par le sang de Christ, est-ce que nous avons besoin au plus profond de notre conscience, que nous avons besoin au plus profond de notre conscience que nous avons vraiment une tâche à accomplir pour le Seigneur. Nous avons quelque chose à faire. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des serviteurs utiles pour le Maître. Et c'est vrai que depuis le jour où nous avons accepté de confier notre vie au Seigneur, eh bien, depuis le jour où nous avons fait cette expérience de cette nouvelle naissance, eh bien, nous sommes devenus, c'est la parole qui est de Dieu qui le dit, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Et c'est vrai que, en tant que chrétiens, nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais je crois aussi que nous sommes appelés à ne pas rester des enfants. Nous sommes appelés à ne pas rester des enfants. Hein ? Vous savez, d'abord, l'apôtre Paul en parle aussi dans l'épître aux Éphésiens. Il parle des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Hein, de ne pas vraiment rester. Nous sommes appelés à ne pas rester vraiment des enfants. Mais, enfin, des enfants. On peut être enfant de Dieu, mais on doit être aussi serviteur, capable d'apporter un service pour Dieu. Hein. Et nous sommes appelés à grandir, vraiment, pour devenir les serviteurs utiles pour l'œuvre du Maître, chacun pour notre part. Et c'est vrai que nous avons tous, de la part du Seigneur, obtenu un ministère, un service, pour que Dieu soit glorifié par nos vies et en tant que témoin de Christ. Et ce matin, aucun de nous qui connaissons réellement la parole de Dieu ne peut dire « Je n'ai pas quelque chose à accomplir pour le royaume de Dieu. Je n'ai pas quelque chose à accomplir pour le royaume de Dieu. » Parce que car la parole de Dieu, eh bien, elle nous enseigne que tout notre être, toute notre vie, elle doit vraiment être au service de Dieu, au service de notre Maître. Servir Dieu, c'est quoi servir Dieu ? Servir quelqu'un, c'est se mettre en action, c'est agir et travailler à l'œuvre qui nous est confiée, à l'œuvre de Dieu. Et c'est Paul aussi qui en parle, je vais citer beaucoup de versets de l'apôtre Paul, parce que c'est vrai que dans les épîtres sont riches d'enseignements. Et Paul en parle dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 12, je vais vous le lire. Et il leur dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non pas comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Il dit, c'est Dieu qui produit en vous, mais il rajoute aussi, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Et c'est là qu'on revoit ce que j'ai dit. Afin que vous ne soyez que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous devez briller comme des flambeaux dans ce monde. Briller comment ? Eh bien, en portant la parole de vie. Et l'apôtre Paul dit, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et c'est vrai. Le ministère que nous avons tous reçu, c'est bien celui-là. C'est mettre notre salut en action, avec crainte et tremblement, et aussi sans murmure ni hésitation. Nous devons travailler pour que le royaume de Dieu progresse toujours plus dans notre vie, et toujours plus aussi autour de nous et dans ce monde. Nous sommes appelés aussi à être les témoins de Christ pour que d'autres personnes puissent réellement se tourner vers le Seigneur. Et souvent dans nos réunions de prière, et je pense que ça va être la même chose ici à Groyer, souvent dans nos réunions de prière, nous prions pour que Dieu sauve des âmes, pour que un peuple nombreux se lève dans notre ville, nous pour Albi, vous sûrement pour Groyer. Nous prions pour que vraiment des hommes et des femmes puissent faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais cela nous incombe aussi par notre témoignage, par notre comportement. Nous devons travailler vraiment pour que le royaume de Dieu progresse toujours de plus en plus dans ce monde. Être des serviteurs, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, être des serviteurs, être des ambassadeurs de Dieu parmi ceux qui nous entourent. Et nous sommes appelés vraiment à être au service de Dieu et à accomplir sa volonté. Le but du salut, c'est bien celui-là. Le but du salut, c'est d'aller dans la présence de Dieu un jour dans sa gloire, mais le but du salut, c'est aussi celui d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. C'est travailler pour que vraiment sa gloire se répande autour de nous. Et c'est ce que dit aussi l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 14, qui nous est dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Et pareil, dans la version Parole de vie, il est dit « Ainsi Dieu purifiera-t-il votre conscience abîmée, parce que notre conscience peut être abîmée par des actions qui produisent la mort. Notre conscience peut être abîmée si nous laissons entraîner dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est là le but de l'action purificatrice de Jésus-Christ dans nos vies qui doit nous amener à ce service pour Dieu. Et si ce n'est pas le cas, ça peut arriver, c'est peut-être qu'il manque quelque chose. C'est qu'il manque quelque chose. C'est que nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir librement dans notre vie. Dieu, par le Saint-Esprit, ne peut pas agir en profondeur dans tout notre être, nous ne le laissons pas agir librement et pleinement pour que cette œuvre purificatrice, régénératrice, qui nous donne la force de vivre et de travailler pour Dieu, puisse nous animer. Hein ? Et si tel est le cas, eh bien la vie de Dieu peut devenir, la vie avec Dieu peut devenir difficile. La vie avec Dieu peut devenir difficile, dure à assumer, car souvent ce sont nos sentiments personnels qui peuvent reprendre le dessus. Nos sentiments personnels qui peuvent reprendre le dessus. Et la conséquence, c'est que nous sommes, pouvons être vaincus et dépendants de ce que la parole de Dieu appelle les faiblesses de la chair. Les faiblesses de la chair. C'est cité dans Romains chapitre 9, chapitre 6, verset 19. Mais on a l'habitude de parler des faiblesses de la chair, mais quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que la chair, c'est quelque chose qui a une puissance extraordinaire aussi, pour nous entraîner dans l'erreur. Et quand il y a un exemple qui est très frappant, c'est, pour la plupart, nous connaissons ce passage, et vous connaissez ce passage, c'est quand Dieu s'est adressé à Noé. Quand Dieu s'est adressé à Noé, il nous est dit que la terre était corrompue. Et il est dit que, dans Genèse chapitre 6, verset 12, que la chair avait corrompu toute la terre. La chair avait corrompu toute la terre. Ce qui veut dire que, on a l'habitude de parler des faiblesses de la chair, mais la chair, quand elle commence à prendre le dessus, eh bien, elle peut nous emmener loin de la pensée de Dieu. Et je crois que nous devons veiller à tout cela. Et la conséquence peut être que le service que nous devons assumer pour Dieu, eh bien, devient lourd à porter. Devient lourd à porter. Quand c'est la chair qui prend le dessus, eh bien, le service qu'on doit apporter devient difficile, lourd. Et pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que dit Jésus dans les évangiles ? Il dit, Jésus, quand il s'adresse, il dit quoi ? Est-ce que son joug est lourd à porter ? Non. Jésus dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Et donc, il vaut mieux se laisser envahir par le joug du Seigneur que par le joug de la chair. Parce que le joug du Seigneur, eh bien, nous amènera dans la victoire. Et j'aimerais aussi, et c'est vrai que quelquefois, on passe par des situations qui sont difficiles à gérer. Et j'aimerais que nous nous rappelions un petit peu la parabole des talents. Vous connaissez la parabole des talents, on va pas lire tout le chapitre. C'est dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 28. Il nous est dit au chapitre 15 que le maître a appelé ses serviteurs et il leur a remis à chacun des talents selon leur capacité. Selon leur capacité. Il donna à l'un 5 talents, à un autre 2 et au troisième 1 talent. Il ne lui a pas donné un talent parce qu'il était incapable d'accomplir quelque chose, mais il lui a donné un talent parce qu'il avait la capacité de pouvoir le faire fructifier. Et c'est vrai que tous ces trois serviteurs avaient la capacité pour pouvoir faire une œuvre utile pour leur maître. Et je crois que pour chacun d'entre nous, il en est de même. Parce que nous avons été régénérés par le sang de Christ, eh bien nous, Dieu nous revêt de cette capacité aussi de pouvoir le servir, de pouvoir travailler pour lui. Et personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu ce qui est nécessaire pour travailler pour son maître et son Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 5, il est dit « Notre capacité, elle ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu, parce que c'est lui qui nous rend capables. Et c'est vrai que s'il nous rend capables, c'est bien pour que nous fassions quelque chose, pour que son œuvre progresse en nous, mais aussi autour de nous. Et cela veut bien dire aussi que celui qui décide de confier sa vie au Seigneur, que celui qui accepte que le Seigneur devienne son maître et son Seigneur, eh bien, non pas pour l'accabler, mais pour lui renouveler chaque jour les forces afin qu'il soit un serviteur fidèle qui répande cette lumière que nous devons tous répandre autour de nous. Dieu le rend capable d'être ministre d'une nouvelle alliance par l'action de l'Esprit qui agit en lui. Et quand on regarde la parabole des talents, à aucun moment il est parlé d'incapacité. Aucun moment il est parlé d'incapacité. Même, comme je l'ai dit, même pour le troisième serviteur, qui n'avait reçu qu'un talent, bien il avait à sa disposition les moyens nécessaires pour pouvoir le faire fructifier. Alors, de quoi peut venir son incapacité? L'incapacité d'un serviteur. Et là encore, c'est Paul qui en parle dans l'épître à Tite, au chapitre 1, versets 14 à 16. Il fait référence à ceux qui sont incapables d'assumer l'œuvre que le maître attend d'eux. Et il nous est dit que ce sont des paroles qui, quand on connaît la parole de Dieu, ce sont des paroles qu'on peut trouver dures à entendre. Et l'apôtre Paul dit que ceux qui sont incapables d'assumer l'œuvre que le maître leur a confiée, eh bien ce sont ceux qui n'ont pas une foi saine. Ceux qui n'ont pas une foi saine. Une foi basée uniquement sur la parole de Dieu. Il nous dit aussi que ce sont ceux qui sont rebelles. Ceux qui peuvent être rebelles. Ceux qui peuvent être aussi de vains discoureurs. Et essayer de trouver des arguments toujours pour se justifier. Ils disent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et c'est bien là, les œuvres de la chair. C'est bien ça, les œuvres de la chair. C'est se laisser dominer par ses sentiments. Et c'est vrai que nous avons tous reçu les capacités de Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté. Et être aux ordres de Dieu, c'est bien, c'est nécessaire. On doit écouter Dieu, écouter ce qu'il veut nous dire. Mais c'est nécessaire d'écouter tout cela, mais je crois que c'est pas toujours suffisant. C'est pas suffisant. Nous devons mettre toute notre volonté en action. Nous ne devons pas rester inactifs. Nous devons mettre, c'est pas parce qu'on connaît la parole qu'on est tranquille. Nous devons tout mettre toute notre volonté en action. Mettre volontairement toute notre vie à la disposition de Dieu et le servir avec zèle. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, à le réjouir par nos actions, par notre témoignage et par notre comportement de tous les jours. Et c'est vrai que dans notre marche avec Dieu, il y a deux étapes. Il y en a peut-être une troisième, mais moi j'en ai mis deux là dans ma réflexion. La première étape, c'est celle lorsque on découvre la puissance et la grâce de Dieu par le salut en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on prend conscience de notre incapacité à satisfaire la volonté de Dieu à cause de notre vie de pécheur, de notre misère et notre vie d'échec et de pécheur. On fait le constat que d'une vie avec beaucoup de négatifs, de difficultés, de problèmes. Et Dieu, par sa grâce et par sa miséricorde, eh bien, il vient à notre secours pour nous sortir de cette misère, de cet état négatif, de faiblesse et de soumission au péché, en nous accordant justement le salut en Jésus-Christ, en nous faisant entrer dans ce salut en Jésus-Christ. Et la deuxième étape, c'est que lorsqu'on fait cette découverte de l'amour de Dieu et de sa bienveillance pour nous amener, ça doit nous amener progressivement à devenir des enfants obéissants, des serviteurs utiles et efficaces pour le royaume de Dieu. Devenir un serviteur utile pour le maître, et à partir de là, eh bien, nous sommes appelés à ne plus cultiver le négatif. Ne plus cultiver le négatif. Et c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui vient dans nos pensées. Mais je crois que le Saint-Esprit est là pour nous aider à ne plus cultiver le négatif. mais à placer toute notre confiance dans le Seigneur afin de se laisser remplir de ce qui est nécessaire pour porter du fruit, les fruits que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et si ce n'est pas le cas, bon, il peut peut-être y avoir des excuses valables. Mais souvent, ce peut être le résultat d'un manque de consécration et de soumission. Et c'est Jésus qui le dit à ses disciples, au chapitre dans Matthieu 26, 41, il leur donne un conseil pour ne pas tomber dans l'insoumission et de ne pas arrêter dans sa marche, dans la marche de la consécration. Il donne un conseil, il leur dit, veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Là encore, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la parole de Dieu nous enseigne que nous ne devons pas nous laisser endormir, justement, par les désirs de notre chair. Encore Galates, chapitre 5, verset 16. Là aussi, c'est un passage que l'on connaît, où il est dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et il rajoute, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il va décrire toutes les œuvres de la chair. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, eh bien, nous aurons toujours des luttes et des combats. C'est pas une vie parce qu'on est chrétien, on est tranquille. Le chemin est large, on peut facilement naviguer. Non, c'est pas parce que on est chrétien qu'on a placé notre confiance dans le Seigneur, que l'on œuvre pour que l'œuvre du Seigneur progresse, que là, il n'y aura pas des luttes et des combats. Parce que ces luttes et ces combats seront toujours amenés contre ces désirs de la chair, ces désirs de la chair. C'est ce que Paul aussi dit dans l'Épître aux Romains, il le développe dans les chapitres 7 et 8, hein, que la loi de Dieu et la loi de la chair sont toujours et seront toujours en opposition. Hein. Il dit, nous appartenons à celui qui est ressuscité de mort, je fais un raccourci, il dit que nous appartenons à celui qui est ressuscité de mort afin que nous portions des fruits pour Dieu. Il les rajoute après, des quelques versets plus loin, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et c'est vrai, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Et si nous voulons faire un parallèle avec ce troisième serviteur de la parabole des talents, nous pourrions dire que ce troisième serviteur, eh bien, contrairement peut-être aux deux autres, sûrement aux deux autres, eh bien, il n'était pas affranchi de la loi de sa chair. Il n'était pas affranchi de la loi de sa chair. Car ses capacités que le maître lui reconnaissait, eh bien, elles ont été rapidement étouffées. Qui c'est qui n'a pas eu la pensée, un jour, de dire, mais le retour du Seigneur, il a encore pour longtemps. J'ai le temps de me rattraper pour pouvoir vraiment lui demander pardon, mais en attendant, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Qui c'est qui n'a pas eu cette pensée? Et en général, quand on se convertit, quand on est jeune, ça a été mon cas, et je me suis converti à l'âge de 16 ans, quand on voit nos copains de collège, de lycée, de faculté, comment, quelle vie ils mènent, on a l'impression qu'ils sont très heureux. Et le diable est là pour essayer de nous tenter et de nous dire, mais attends, tu as encore le temps, tu es jeune. Le retour du Seigneur, c'est pas pour demain. Alors, profite-en un peu, fais comme tes copains. Et puis, alors, dès qu'on rentre dans ce système, eh bien, c'est une vie d'échec, de déception. Et vraiment, j'encourage les jeunes à ne pas se laisser intimider, ne pas se laisser influencer par ces choses-là. Ne pas dire, mais moi, je voudrais bien essayer. Non. Si vous connaissez le Seigneur, si vous avez fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, eh bien, marchez fidèlement avec le Seigneur. Parce que sinon, il y aura des combats, il y aura des luttes. Et l'ennemi, il est aussi puissant. Il est aussi puissant. Hein? Le Seigneur est victorieux, mais l'ennemi, il est là pour corrompre. Alors, il ne faut pas se laisser influencer. Et je disais, voilà, c'est comme ce troisième serviteur. Le maître n'est pas là, j'ai le temps, alors je m'occupe de ce dont moi j'ai envie ou de ce que j'ai besoin, et puis je verrai un peu plus tard d'essayer de m'occuper des affaires de mon maître. Hein. Et lorsque le maître arrive, qu'est-ce que le maître va dire à ce serviteur ? Il va pas lui dire « Tu es un mauvais serviteur ?» Mais il va lui dire, ou il ne va pas lui dire « Tu es un serviteur qui manque de compétences ?» Mais il va lui dire « Serviteur, méchant et paresseux. » Serviteur, méchant et paresseux. Et le maître rajoute « Pourtant, tu connais mes exigences. Tu connais ce que j'attendais de toi. Hein » Et c'est vrai que ne pas faire fructifier ce que notre Seigneur et Maître nous a confié peut entraîner un lourd verdict. Le jour où notre Maître viendra à notre rencontre, ou le jour où nous irons à la rencontre de notre Maître, il peut peut-être ce jour-là, si nous laissons séduire, accaparer par toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, il peut nous dire serviteur, méchant et paresseux. Alors, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette expression « serviteur méchant et paresseux » ? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette expression « serviteur méchant et paresseux » ? Serviteur méchant et paresseux, c'est celui qui est encore trop attaché aux choses de la terre. Comme je l'ai dit, c'est celui qui se laisse dominer dans sa vie par ce qui est charnel. C'est également celui qui s'égare dans ses pensées ou ses sentiments. Parce que le véritable serviteur fidèle de Jésus-Christ doit renoncer à tout cela. Et c'est encore l'apôtre Paul qui en parle dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 5, où il les exhorte, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Et il qualifie ces membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, toutes les passions, tous les mauvais désirs, toutes ces choses-là, et parmi lesquelles nous marchions autrefois. Renoncez à tout cela, faites mourir tout cela. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre, tout ce qui est charnel. C'est pas facile. C'est pas facile. Et on ne peut pas montrer du doigt qui que ce soit, mais je crois que c'est valable pour chacun d'entre nous. Même après des années d'expérience avec le Seigneur, eh bien, on a besoin de ne pas se laisser accaparer par toutes ces choses-là. On doit vraiment renoncer à toutes ces choses, à toutes les œuvres de la chair. Qui sont mentionnés, la méchanceté, la colère, toutes ces choses-là. Renoncer également aux paroles équivoques. Et c'est bien les paroles que le troisième serviteur a eues à l'égard de son maître. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je sais que tu es un homme dur. Je sais que tu es un homme dur. Alors, parce que tu es un homme dur, j'ai pas fait ce que tu voulais que je fasse. Hein ? Et c'est le seul d'ailleurs qui a fait un commentaire sur le maître. C'est le seul qui a fait un commentaire. Et c'est vrai que le serviteur paresseux, méchant et paresseux, le serviteur paresseux, pour le serviteur paresseux, eh bien, la négligence peut conduire à l'incrédulité, peut conduire à l'inaction. Hébreux, c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ce sont des versets qui, quand on les lit, on pense souvent au peuple juif. Ça s'adresse au peuple juif, mais je crois que ça s'adresse à chacun d'entre nous également. Prendre garde que l'incrédulité, un cœur mauvais, il n'y ait pas un petit germe qui refasse surface dans nos vies. Dans la parole de Dieu, il est parlé du serviteur paresseux. Et la paresse, c'est ce qui nous éloigne du travail et de l'effort. La paresse, ça peut se traduire par un manque de zèle, ou aussi ce qu'on appelle familièrement un zèle amer, un zèle qui ne va pas dans le bon sens. Et dans le livre des Proverbes, il y a plusieurs versets qui parlent du paresseux ou de la paresse. Je vais juste vous en citer. J'en ai répertorié plusieurs, mais je vais juste vous en citer deux. La paresse fait tomber, c'est écrit dans Proverbes chapitre 19, verset 15, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Être assoupi, c'est quoi? C'est être sans réaction, sans énergie, être amorphe, pratiquement sans vie, quoi, en fait. Tomber dans l'assoupissement spirituel, cela aussi signifie ne plus prendre plaisir à vivre pour Dieu. Ne plus prendre plaisir à vivre pour Dieu. Et c'est bien ce que l'on ressent de ce serviteur à l'égard de son maître. Le paresseux, pareil au chapitre 20, verset 4, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. C'est encore l'image du troisième serviteur. Au moment de la moisson, quand le maître est arrivé, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est bien ce qui caractérise la paresse, c'est encore ce qui caractérise la froideur spirituelle. Lorsqu'on est froid spirituellement, on ne peut que récolter les satisfactions. Rien qui ne puisse d'abord réjouir notre cœur, mais aussi réjouir le cœur de notre Maître et Seigneur. Et un dernier verset, Proverbe chapitre 26, verset 16, il est dit « Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens ». Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. C'est encore ce qui ressort de ce troisième serviteur. C'est le seul, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul qui fait un commentaire sur son maître, à la place de s'excuser de ne pas avoir fait son travail, il cherche une raison valable. Et c'est vrai que toute la parole de Dieu nous met en garde contre une telle attitude qui déshonore Dieu. Car le résultat pour celui qui est concerné, bien peut-être dramatique, peut-être le même que celui que le maître a que celui qui a, que ceux qui a été qualifié ce serviteur inutile. Car le Seigneur, c'est vrai, n'a que faire de serviteur inutile. Il n'a que faire de serviteur inutile. Et nous avons tous une tâche à accomplir pour notre Maître et Seigneur, celle vraiment d'être les témoins, les ambassadeurs qu'il veut que nous soyons, afin que nos prières, les prières que nous faisons pendant nos réunions de prière pour qu'un peuple nombreux se lève, eh bien puisse vraiment être une réalité. Eh bien, mais ce n'est pas uniquement le travail du serviteur de Dieu, qui a une responsabilité, c'est vrai, qui a beaucoup de responsabilités. Mais c'est le travail de chacun d'entre nous. Nous devons tous collaborer pour que vraiment, l'ennemi recule. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la puissance de la chair est terrible dans ce monde. Et l'ennemi est toujours là pour essayer d'empêcher les âmes de se tourner vers Dieu. Mais nous croyons que nous avons un sauveur qui est encore plus puissant, qui est encore plus grand, qui a remporté la victoire sur l'ennemi et qui peut encore la remporter pour que des âmes se tournent vers lui. Et c'est vrai que, comme il est dit aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 11, que nous désirons que chacun de vous, que moi-même, que vous, que nous tous, nous montrions le même zèle pour conserver jusqu'à la fin cette pleine espérance de cette rencontre glorieuse que nous ferons avec le Seigneur. Hein? En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez pas, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et c'est vrai que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Hein? C'est ce à quoi nous appelés. L'empressement ou le zèle vont de pair avec l'espérance. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir en courant et faire n'importe quoi, mais nous devons vraiment nous mettre à l'œuvre pour que nous puissions vraiment travailler pour le Seigneur. Et c'est vrai que lorsqu'il y a empressement pour une mise en action, eh bien, il y a de l'enthousiasme. Il peut y avoir aussi de la persévérance pour que le travail progresse. Hein. Et c'est vrai que tout cela, eh bien, est la conséquence du salut. Ce que doit engendrer le salut, un résultat positif. Et on le voit pour les deux premiers serviteurs. Hein. 5 talents, on en a rapporté 5. 2 en ont rapporté 2. Donc 100% de réussite. Hein. Et je crois que ce que Dieu veut nous dire à chacun d'entre nous, c'est que si nous sommes fils et filles de Dieu, eh bien nous devons être aussi de véritables serviteurs qui agissent avec efficacité pour l'œuvre, pour son œuvre, pour l'œuvre de notre Maître. Peut-être avec beaucoup de luttes et de difficultés, beaucoup de combats, mais en allant de progrès en progrès et de victoire en victoire pour la gloire de Dieu et par l'action du Saint-Esprit que le Seigneur met à notre disposition, que le Seigneur nous donne. Alors, pour terminer, les questions que nous devons nous poser ce matin, est-ce que j'ai bien pris garde, jusqu'à ce jour, de bien remplir le service que Dieu attend de moi? Est-ce que j'ai bien pris garde de bien remplir le service que Dieu attend de moi? Est-ce que la joie profonde, qui est le résultat d'une vie soumise et consacrée au Seigneur, est véritablement mon partage? Est-ce que j'ai vraiment de l'enthousiasme et de l'empressement à servir le Seigneur? Et est-ce que l'espérance de la gloire de Dieu est toujours aussi présente dans mon cœur? Est-ce que cette espérance d'aller un jour à la rencontre du Seigneur, non pas pour être jugé, mais pour rentrer dans sa présence, cette présence où nous serons pour l'éternité avec lui, dans la paix et dans la joie? Eh bien, que chacun d'entre nous, nous puissions nous examiner nous-mêmes, afin que nous puissions, chacun peut déjà aujourd'hui, s'imaginer la réponse qu'il pourrait entendre du Seigneur. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as bien accompli le travail que je t'avais confié, alors entre dans la joie de ton maître. Ou alors, la réponse de ce troisième serviteur, je ne vais pas vous la rappeler, vous la connaissez, hein, mais évitons que cela, en nous examinant nous-mêmes, que si c'est cette parole qui vient à notre esprit, eh bien que nous puissions demander pardon au Seigneur. Parce que c'est vrai qu'encore nous avons une chance, cette chance que la grâce de Dieu est toujours présente. Dieu est toujours présent et Dieu est toujours là pour nous aider, nous pardonner et pour nous donner cette possibilité de revenir dans une communion parfaite avec lui. Alors tant que nous en avons la possibilité, eh bien, examinons-nous nous-mêmes et que chacun puisse répondre personnellement à ces questions et voir si, où j'en suis, où nous en sommes, chacun pour notre part, dans notre marche de disciples, de serviteurs avec le, pour le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et que vraiment, eh bien, cette parole puisse nous amener à beaucoup de réflexions pour pouvoir progresser dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est vrai, ta parole est toujours là, Seigneur, pour nous exhorter, Seigneur, pour nous encourager, Seigneur, même si quelquefois, Seigneur, nous sommes obligés, Seigneur, de reprendre en considération, Seigneur, tout ce que tu veux nous dire, Seigneur, afin de progresser, d'aller de progrès en progrès avec toi, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce qui, de temps à autre, Seigneur, est là pour nous empêcher d'avancer avec toi, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, d'enlever toutes ces choses-là de nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons tous ensemble, Seigneur, des serviteurs utiles pour l'œuvre de ton Maître, Seigneur, et que nos prières que nous t'adressons, Seigneur, pour que des âmes se tournent vers toi, Seigneur, bien, ne soient pas uniquement des paroles, Seigneur, mais que cela se traduise aussi par des actions, Seigneur, positive dans chacune de nos vies, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Seigneur notre Dieu. C'est pour cela que nous voulons vraiment nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Rester, Seigneur, fidèlement attaché, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Rester fidèlement attaché, Seigneur, à l'œuvre que tu veux que nous accomplissions pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses, Seigneur, et que, si c'est nécessaire, Seigneur, et que, personnellement, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions nous examiner nous-mêmes, Seigneur, afin vraiment, Seigneur, de faire, Seigneur, ce retour vers toi, si cela est nécessaire, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, recevoir le pardon, Seigneur, pour tous nos manquements, Seigneur, tout ce que nous avons négligé, Seigneur notre Dieu, afin de repartir, Seigneur, avec un cœur pur, Seigneur, à ton service, tout cela pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.